What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No,
no. Not wounded, sir.
Che fai, aggredisci?
Ma stato fatto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa chiedisci? Come fa chiedisci?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles de toutes les couleurs, rose, Barbie, bonbon, bleu RPR, vert solidaire, noir déprimé, bienvenue. Vous écoutez Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir, je ne sais même pas par où commencer, à ma droite, avec Didier. Bonjour,
bonjour
Didier. Bonjour à toi.
Salut.
Christophe.
Bonjour Sophie.
Violetta.
Bonjour.
Olivier, bonjour.
Bonjour, et c'était Mathieu.
Oui, Mathieu.
Mais c'est bon, je crois qu'elle le sait.
Oui, mais enfin,
je crois, je crois.
Et Nico, à la réalisation. Alors aujourd'hui, on va parler surtout de deux films, mais pas que. On va parler de Barbie a vieilli de Léa Domenech. Bernadette, mais je ne sais pas, je pense que c'est
Sophie.
C'est l'affiche qui m'a induite en erreur, non? Un peu rose bonbon, il me semble. Enfin bref, donc Bernadette de Léa Domenech et du règne animal de Thomas Caillet. Mais on pourra aussi parler des feuilles, redire un mot des feuilles mortes et peut-être de la beauté du geste, on verra. S'il nous reste du temps, puisqu'on est nombreux à avoir vu ces films. Allez, c'est parti.
Voilà. Madame Chirac, comme Claude ne m'a pas donné de budget pour commander un vrai sondage d'opinion, je me suis permis d'en réaliser un moi-même sur le personnel de l'Élysée. Alors, ne vous inquiétez pas. Je dois vous prévenir, les résultats ne sont pas bons. Les gens vous trouvent ringarde.
Bonjour Madame Chirac.
Bonjour Maligné.
Froide. 19,8.
Bonjour Madame.
Bonjour Madame Chirac.
Austère. Acariâtre à égalité avec revêche.
Oui, moi ça va, j'ai compris.
Mais pas de panique. Nous allons faire en sorte que les Français découvrent votre vrai visage. Va falloir apprendre à désobéir, Madame Chirac.
Et oui, Bernadette, vous l'aurez compris, c'est pas Sainte Bernadette, c'est pas Bernadette... Soubirous. C'est Bernadette Chirac par Léa Domenech avec Catherine Deneuve, bien sûr, que vous avez entendu. Alors, qui l'a vu, Christophe Olivier?
Non.
Non, Christophe Olivier.
Christophe. Oui, moi j'ai vu le film il y a quelques semaines déjà, même quelques mois. Bon, alors c'est un film un peu Madeleine, parce que la vie de Bernadette Chirac, ça parle pas à tout le monde. C'est entre 1995 et 2002-2003. Les spectateurs les plus jeunes ne connaissent peut-être pas ce personnage. Catherine Deneuve la rend un peu sympathique quand on a vécu cette époque-là et qu'on a connu un peu le personnage réel. On a un peu du mal à la voir sous les traits de Catherine Deneuve, mais bon, ça rend tout ça plaisant, drôle. C'est un film sur lequel on rit beaucoup. Voilà, il ne faut pas essayer de chercher un lien trop direct avec la vraie Bernadette, qui est un petit peu moins sympa. C'est l'histoire d'un changement d'image, en fait. Voilà, qui est une femme qui est restée dans l'ombre de son mari toute sa vie et toute la carrière politique de Jacques, jusqu'à ce qu'il soit élu président de la République et que voilà, on lui demande un peu de sortir de sa chrysalide. Voilà.
Mais justement, c'est pas problématique ça d'évincer un petit peu le personnage pour en faire quelqu'un d'autre? Politiquement, c'est pas neutre. c'est
bah, politiquement, peut-être pas augmenter le rôle politique de Bernadette Chirac. Elle a été élue locale en Corrèze. Et elle, on voit dans le film qu'elle donne des conseils à son mari qu'il n'écoute jamais, même et que bien souvent, en fait, c'était des conseils assez avisés. Je pense à la dissolution, des choses comme ça. Mais voilà, oui, après, c'est une question de caractère. Moi, j'ai, Catherine Deneuve, Bernadette Chirac, c'est un peu une dichotomie un petit peu difficile à appréhender, mais bon.
Oui, moi, j'ai pas, juste un petit détail, moi j'ai pas vu le film, j'irai le voir, mais effectivement, comme tu le dis, c'est quand même la seule femme de chef d'État française à avoir assumé de réelles responsabilités politiques. Oui, elle a quand même été élue pendant des années et des années, et je suis pas plutôt un spécialiste de Bernadette Chirac, mais j'ai l'impression qu'elle a fait du travail quand même en Corrèze.
Oui, c'est une femme de terrain, elle était très présente,
Mais Bernadette Chirac, effectivement, c'est la seule première dame à avoir eu un mandat électif. Et elle avait fait Sciences Po avec son mari. Plan compétences, c'est bien un peu la même chose. Et puis certainement plus intelligente. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, ça m'a fait penser, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça m'a fait penser à Molière, à l'illustre théâtre. L'illustre théâtre, c'est 143. Là aussi, les plus jeunes ne peuvent pas se souvenir. C'était 6 hommes, 4 femmes. Et moi, en regardant le casting, et surtout en les regardant jouer, j'ai un peu pensé à une troupe de comédiens qui s'amusent et qui prennent comme ça des rôles un petit peu trop larges, trop étroits pour eux, je sais pas. Alors, est-ce que c'est parce que c'est Villermoz et puis Podalydès qui sont de la comédie française, la maison dite de Molière? Mais moi, j'ai pensé à ça avec cette même volonté de se moquer, de dénoncer légèrement.
Ça reste sympathique.
Ça reste très, très sympathique. De dénoncer un petit peu certains excès de la vie politique, son machisme en particulier. Bon. Mais en même temps, comme Molière, on l'oublie, je crois, assez régulièrement, mais Molière était copain comme cochon avec Louis XIV. Il n'a jamais fait de vagues en termes de critique du pouvoir. Les quelques fois où il a fait un peu quelques vagues, c'était pour le Tartuffe. Il a déchaîné contre lui les dévots. Il a été protégé par Louis XIV. Et puis, quand il a eu aussi des soucis par rapport au Don Juan, où il faisait une peinture très critique de l'aristocratie, Louis XIV l'aurait bien suivi, mais il fallait calmer Versailles, et donc il a joué 2 fois, quoi. Donc on a ce même, à mon avis, ce même parti pris de légèreté. On s'amuse d'abord, et on s'amuse en accrochant un petit peu, comme ça, au passage, le monde politique. Et effectivement, il joue des rôles, et Villermoz dans le rôle de Chirac. Et alors, justement, c'est comme ça que j'explique le décalage entre, évidemment, Catherine Deneuve et Bernadette Chirac. C'est énorme. C'est le grand écart, et justement, ça marche. Et ça marche de manière drôle.
Oui, ça fonctionne parce que le film se prend pas trop au sérieux et que Catherine Deneuve amène une légèreté plaisante. Je pense qu'une biographie un peu réelle de Bernadette Chirac aurait été bien moins drôle. Et je vois pas quelle actrice aurait pu interpréter cette dame.
Elle était notoirement pas rigolote, mais justement assez intéressante du point de vue politique.
Oui. Enfin voilà, c'est un film plaisant, il faut pas bouder son plaisir, on a bien rigolé. Et tout le monde est très bien, et Villermoz, et Podalydès, et Anna Girardot qui joue le rôle de Claude Chirac aussi, qui est pas mal, en conseillère.
Bernadette donc est à voir en ce moment à Aubenas, à Privas et à Ruyons. On continue sans bande-annonce, mais avec un peu de musique. Ah non. Oh, c'est dommage. Ah. Mon réalisateur préféré, Nico, me dit qu'il n'y a pas de son.
Eh bien, on va y aller, alors.
Il n'y a pas de son. Bon, tant pis. Il n'y a pas de son pour introduire Le règne animal de Thomas Caillet. Et c'est dommage, c'était un morceau, justement, dont j'ai pas pris la bande-annonce, mais pour se mettre dans l'ambiance, parce que c'est vraiment un film qui s'écoute aussi très très fort, avec un grand soin apporté au son, à la musique.
Oui, avec grand plaisir, je veux bien. J'ai beaucoup aimé le film, comme presque tout le monde. Hein, la presse est dithyrambique, et les spectateurs moi, que j'ai vus qui l'ont vu là, depuis mercredi sont tous vraiment très, très emballés et avec beaucoup de raisons. Donc c'est le troisième, entre guillemets, opus de Thomas Caillé qui décidément est un... Ça y est, on a trouvé le son, non ?
Oui, on a trouvé
Alors,
le son
allons-y,
devant toi.
Le son. Et non, on l'a pas trouvé.
Si. Devant toi, l'un des morceaux et l'un des moments du film réalisé par Laszlo de Simone, la bande-son du film, très très belle bande-son, qui mêle, on l'a entendu au départ, une immersion sonore, on entend les bruits justement de la nature et qui s'intensifie de plus en plus.
Oui, d'ailleurs, moi, ça me fait penser à La Nuit du Chasseur, le début du morceau qu'on vient d'entendre, avec particulièrement cette séquence dans La Nuit du Chasseur où les enfants descendent de la rivière. On a cette même magie dans le son. Bon, ça, c'est autre chose. Donc, Thomas Caillé, pour en revenir au réalisateur, on l'avait découvert il y a une petite dizaine d'années avec son premier
2014.
Film, Les Combattants, qui avait déjà obtenu, si je me souviens bien, le César du premier film, qui était déjà quelque chose de très remarquable à l'époque sur les milieux survivalistes, avec déjà Adèle Exarchopoulos.
Et c'est Adèle Haenel.
Non, c'était Adèle Haenel.
C'était Adèle Haenel. Eh ben autre. Voilà. Bon, merci d'avoir rectifié. C'est une autre Adèle. Et qu'on a retrouvé ensuite. Alors ça, je ne sais pas si vous avez vu ça sur une mini-série Arte qui s'appelait Ad Vitam, et où on était encore dans le fantastique un peu, dans le science-fiction, mais dans la science-fiction très proche, puisque on avait l'humanité avait vaincu la mort, avait trouvé le vaccin contre la mort, et donc la grande interrogation, c'était qu'est-ce qu'on va faire des jeunes. Voilà, donc c'était cette mini-série dont Arte a le secret, qui était vraiment très très intéressante également. Et là, je crois que c'est une espèce de sillon que ce réalisateur continue à creuser, puisque nous sommes aujourd'hui dans son film, sauf que on ne sait pas bien pourquoi, peut-être un virus, peut-être autre chose, mais ce n'est pas très important. Une partie de la population mute et se transforme en animal. Et à partir de ça, que nous acceptons immédiatement comme constat dans le film, le film devient alors à la fois quelque chose de très poétique, quelque chose de magique, de magnifiquement beau. Il y a des séquences d'une beauté extraordinaire, mais le film devient pour moi vraiment un reflet de notre société, puisqu'on va retrouver l'intolérance, la méfiance de l'autre. Hein. On voit bien comme on a aujourd'hui des mots d'argot vraiment pas très sympathiques, par exemple, pour définir les migrants ou autres personnes exclues. Ben ici, on a, je dirais plutôt, les personnes empathiques qui vont appeler ces mutants des créatures, et les autres qui les appellent des bestioles, et puis qui ne sont pas contre, de temps en temps, le dimanche, de prendre un calibre et d'aller à la chasse aux bestioles en 4x4. Donc on retrouve plein de choses de notre société, la méfiance, la peur des différences, et surtout quelque chose qui transparaît d'une façon assez claire, c'est, et moi qui m'a vraiment interrogé, c'est on s'habitue à tout. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose de terrible. C'est une mutation qui arrive dont on ne sait pas d'où, des proches qui se transforment en loup, en oiseau, en grenouille, en tout ce qu'on veut. Mais on s'aperçoit que très très vite, en fait, la population s'est accoutumée. C'est comme ça. Comme nous, on s'accoutume aujourd'hui à danser sur un volcan avec une menace atomique. On s'habitue à la guerre, on s'habitue au climat qui est en train de partir en vrille. On s'habitue absolument à tout. Et là, c'est pareil. Et d'ailleurs, dans la toute première séquence, dans un embouteillage où c'est la première fois qu'on est confronté à l'étrange, il y a un automobiliste qui sort. Et dit, oh, quand même, quelle époque hein. Ça s'arrête là. Et puis, on passe à autre chose. Alors, le film aborde également, et c'est pour ça qu'il est très riche au-delà de tout ça, aborde également l'écologie. Alors, c'est pareil, c'est jamais très prononcé. C'est en toile de fond. Romain Duris est un restaurateur qui va accepter pour suivre sa famille qui est en proie à ses mutations, à changer de région, à changer de métier. Donc de restaurateur, on va dire, de qualité, il va se retrouver pizzaïolo, à habiter dans un bungalow dans le sud. Et lui, il n'arrête pas de parler de l'alimentation, arrête de manger ses cochonneries, etc. Tu vois ce qui se passe. Des interrogations plus métaphysiques, c'est-à-dire à quoi ça sert de se transformer en oiseau si on n'est pas capable de voler. Enfin, il y a énormément de choses dans ce film. Tu voulais dire quelque chose?
Non, je laisserai la parole.
Je termine. Et surtout, je voudrais aussi dire que c'est un film avec des séquences d'émotions qui sont assez incroyables. Il y a particulièrement... Alors, on aurait pu écouter ça aussi.
Et oui, mais justement, j'ai pas voulu la mettre, la scène de voiture
la
dans
scène
la nuit.
De voiture dans la nuit avec une je sais pas si... Richard Cochante, peut-être,
non, je ne sais pas. Il faut pas dire.
C'est un tube, voilà. Mais moi, j'en avais les poils qui se dressaient sur les bras, tellement c'est émouvant, mais pas émouvant au sens facile du terme. C'est vraiment quelque chose de très, très beau. Voilà, donc c'est étonnant, c'est beau, c'est poétique, c'est politique. Il y a des pointes d'humour, quand même.
Beaucoup, aussi.
On pourrait aussi parler des effets spéciaux qui n'ont rien à voir avec les effets spéciaux hollywoodiens. Voilà, pour moi, c'est vraiment une réussite à 100%.
Moi, je boue, mais je vais d'abord donner la parole à toi. Oui.
Mathieu, oui, c'est moi. C'est toujours moi, Mathieu. Bah écoute, ouais, ce film, il m'a happé. C'est-à-dire que je ne connaissais pas le cinéma de Thomas Caillet. J'y suis allé, je savais que ce film, on en parlait énormément. Pourquoi ? Ben, j'aime bien me laisser la surprise, on en avait déjà parlé une fois. Et c'est ce que j'ai fait, et qu'est-ce que je regrette pas. En fait, le film m'a appris, je voyais une scène entre son père et son fils, un fils en pleine crise d'adolescence qui, comme son père le dit, subit la vie avec des leçons moralisatrices vues et revues de son père, ce qui est normal. T'as rien de... Et d'un coup, cette scène où cet homme mi-oiseau qui sort de l'ambulance, incroyable. Juste ça comme expérience... Quand on s'y attend pas et qu'on a la chance de ne pas connaître le contexte, ça marque. Et donc là, directement, le film m'a chamboulé.
Et qu'on n'écoute pas Cinémascope, hein, parce que j'ai oublié de dire, surtout, n'écoutez pas si vous comptez aller voir le film.
Exactement, c'est compliqué, ouais, on est dans la contradiction, nous aussi. Mais en même temps, voilà, c'est un film qui mérite à être connu, parce que c'est... Je veux dire... Didier, il en a beaucoup parlé, mais ne serait-ce que les émotions. J'ai envie d'insister, on en avait parlé en off, Sophie, les regards. Les effets spéciaux, il y en a, ils sont très bien faits, mais les effets pratiques, tout le travail autour du maquillage, des costumes, ils servent le propos, quoi, de l'émotion, du regard, de la mutation, des choses qui changent dans le corps humain, que ce soit à l'adolescence ou le monde qui change et l'être humain qui mute avec, hein. Et ça parle de tout ça, à part que là, c'est en version accélérée et épidémie, un peu comme une épidémie de zombies dans certains films de genre. Là, on est dans l'animal. La vision de comment... On remarque dans ce film, on voit très peu d'animaux classiques, sauvages. On en voit très, très peu. On voit plutôt des humains en mutation. Donc, cette méfiance, ce côté qu'on a de laisser les animaux dans la forêt, milieu hostile. La façon de comment... s'occuper des gens qui sont dans le besoin, qui sont malades, par exemple, qui sont vulnérables. On va enfermer, ce qui est complètement incroyable dans ce film, on va enfermer les animaux, du coup, ces humains en mutation, dans des chambres, en hôpital, et on va laisser les humains dans la nature, en se méfiant de cette nature. Je veux dire, il y a tellement de choses à dire sur ce film. La réalisation, voilà, on en a parlé avant. Bon, bref, c'est un coup de cœur qui m'a chamboulé. Je ne savais pas dans quoi je me lançais. J'avais l'impression que ça allait me bouleverser, mais en bien. Sortir de ce film en me disant waouh, c'est quelle claque. Ça l'a été, mais tellement inspirante. Une claque inspirante, et je le conseille vivement.
Mmh. Bah, écoute, j'ai rien de plus à dire. Ils ont tout dit. Et c'est un film génial. Il faut aller le voir.
Mmh. Olivier ?
Je vais encore faire l'empêcheur de tourner en rond, moi je sens ça. Non, j'ai beaucoup aimé également, bien sûr. C'est un film de genre qui réussit dans le genre et qui en plus arrive à tisser avec le thème de genre une vraie histoire familiale, une histoire d'amour entre un homme et une femme, sa femme, et puis la relation père-fils qui est très très bien jouée par Paul Kitchener et Romain Duris, bien sûr, c'est très fort, effectivement. Et alors, je merci pour le son, parce qu'effectivement, il y a un gros travail sur le son et sur la musique, et comment le son et la musique s'allient, et comment on passe de l'un à l'autre, parce que du son et de la musique, c'est pas la même chose, quand même. Hein. Et là, on arrive encore une fois à les tisser comme sont tissés le thème dramatique, familial, et puis le film de genre. J'ai quand même un bémol qui est au niveau du sous-texte, justement, politique, écologique et autres. Je pense que ce sous-texte, dans un film, on a en quelque sorte des hyperliens qui nous conduisent à un discours idéologique, politique, spirituel, moral, enfin, etc. Et c'est très bien, c'est cinéma et message aussi. Mais justement, je pense que les hyperliens, là, ils nous envoient vers un discours que je trouve un peu sommaire quand même, sur l'écologie et le respect de l'autre, effectivement, des migrants, d'accord. Je pense qu'il y avait plus à dire sur notre, encore une fois, une figure du tissage, sur la manière dont l'être humain est tissé avec les autres animaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous allez sur Wikipédia et puis que vous regardez les animaux, vous allez avoir la classification, ce qu'on appelle phylogénétique, c'est-à-dire on fait plus des petites cases maintenant avec les différents animaux, les différentes espèces ou genres, on fait des fils, c'est-à-dire des généalogies, et on montre très bien que l'espèce humaine est au bout d'un de ces phylums, mais qu'étant au bout d'un de ces phylums, elle intègre antérieurement des tas d'espèces. Nous avons les gènes de quantité d'espèces qui nous sont antérieures, et nous sommes habités par ces espèces réellement, biologiquement. Et ça, je trouve que dans le film, c'est merveilleusement représenté, en particulier avec Fix, l'oiseau, joué par Tom Mercier. Je me suis promis de citer le nom de cet acteur, Tom Mercier, qui est extraordinaire dans sa transformation d'homme en oiseau. Et en particulier, il y a un phénomène, c'est que nous parlons en pulsant l'air, alors que les oiseaux émettent des sons en inspirant de l'air. Et il fait ça de manière absolument extraordinaire. Et dans cette espèce de mouvement-là, on sent vraiment comment nous sommes, nous, humains, habités par des gènes antérieurs et qui peuvent toujours, quelque part, se manifester. Je pense que... Comme le père d'Émile, dans Romain Duris, donc, hein, François, comme il est présenté comme quelqu'un se documentant beaucoup, étant il citronnait char, enfin bon, c'est drôle, etc. Il pouvait être un élément porteur d'un discours un peu plus complexe, qui m'aurait, moi, aurait pour moi donné une plus grande unité, un plus grand plaisir au film. Quoi, voilà.
Je comprends ce que tu dis, mais j'ai l'impression, hein, dis-moi ce que t'en penses, mais que le personnage de Romain Duris, il est justement dépeint de cette façon, c'est-à-dire, ça fait très cliché quand on dirait qu'il sort des citations qu'on pourrait retrouver sur les réseaux 1, et ouais. Il est là à dire des conseils que son fils le contredit justement, très, très justement, parce qu'il dit oui, tu me dis de faire ça, mais tu n'appliques même pas toi dans ce contexte-là. Ouais. Je trouve que c'est vraiment ça aussi, c'est ce film, je trouve qu'il aborde tellement de sujets, je suis d'accord avec toi sur le fait que le propos aurait pu être beaucoup plus différent et approfondi, là ça, mais ça traite tellement exactement, mais ça traite tellement de sujets que je trouve que le cinéma, il faut qu'il y ait quelques clichés pour justement que ça nous Mais qu'on interprète ça comme on veut.
Ce serait un autre film, moi, j'aurais tendance à dire ça, ce serait un autre film. Là, je crois le film ne se voulait pas, effectivement, tract militant. Veut complètement autre chose.
Justement, le problème, c'est qu'il court le risque de devenir un tract militant.
Oui, mais c'est tellement deuxième, troisième degré que c'est une toile de fond, c'est une trame. Et c'est, moi, ça ne m'a pas du tout gêné. Au contraire, j'ai trouvé que ça allait tout à fait dans le sens du film.
Ouais, et surtout, c'est vraiment une expérience émotionnelle et sensorielle. Et ça, je trouve que c'est assez rare. Moi qui suis sensible à ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas été touchée de cette manière-là, justement, parce qu'il y a beaucoup d'émotions. On l'a dit, tu l'as dit, on rit, on pleure, on s'interroge dans ce film. Et ce que je voulais ajouter, c'est que le film, le titre du film, c'est Le règne animal. Et moi, j'en reviens. D'ailleurs, j'étais étonnée que tu ne le fasses pas. D'habitude, c'est plutôt Olivier qui fait ce genre de remarques. Animal.
Qu'aurais-je dû dire ?
Non, animal, étymologiquement, c'est quoi ? C'est anima, c'est l'âme. C'est l'âme que nous avons tous. Enfin, humains, animaux. D'ailleurs, jusqu'au XIVe siècle, il n'y avait pas... On qualifiait d'animal l'humain également, sans faire forcément de distinction et sans rejeter les autres animaux à l'extérieur. Et je trouve que ce film, Anima, c'est vraiment ça, c'est l'âme. Et tu en as touché un mot, ce travail sur les regards. Les regards sont très très importants et on se rend compte des émotions, des réactions des gens et de comment on apparaît au monde par les regards, que ce soit les regards des êtres en mutation ou par les regards des gens. Donc vraiment, je trouve que pour le coup, le règne animal, si seulement le règne des âmes, effectivement, ça pouvait être...
Thomas Caillet a dit d'ailleurs, je vais noter ça, sur France Culture, que c'était un film sur le regard.
Je trouve vraiment ça un film sur le regard et un film sur les mutations parce que, mais ça tu l'as dit, ça pourrait être aussi très bien une métaphore sur la transformation d'un corps adolescent en un corps...
Au-delà de ça, c'est une remarque qu'on a déjà fait plusieurs fois ici, c'est-à-dire que le cinéma de genre français qui était vraiment quelque chose de quasiment inexistant depuis 3-4 ans, là, est en train de prendre une ampleur. On a eu Acide, bon, qui est un peu en dessous, mais qui est un film éminemment intéressant également, il y a quelques semaines.
Il y a deux ans. Ouais,
voilà, on a eu des films de loup-garou, on a eu un certain nombre de choses comme ça, et là, ça s'inscrit tout à fait dans ce renouveau du genre du film français.
Eh ben en tout cas, merci beaucoup. On a pris un petit peu de temps pour parler de ce film, mais c'est vrai que c'est à voir. Et vous pouvez le voir à Aubenas et à partir du 18 octobre au Vivarais et au Quinconce à Vals-les-Bains. Et puis à la médiathèque, vous pouvez emprunter Les Combattants pour vous refaire une petite idée de la cinématographie de Thomas Caillet. Allez, pour terminer, parce qu'il nous reste peu de temps, peut-être deux films, Violetta, tu voulais peut-être dire un mot sur deux films qui sont encore très peu à l'affiche. Donc, tu voulais reparler des Feuilles Mortes,
Eh bien, écoutez, moi, j'ai été aussi bouleversée par ce film, et surtout par l'ambiance, c'est un film très riche au niveau des ambiances. Moi, par exemple, les couleurs aussi. On a l'impression de se trouver dans une autre époque, alors que sans arrêt, dès que les personnages allument la radio, on est quand même sur fond de notre époque avec la guerre d'Ukraine. Mais les couleurs, les costumes, les accessoires, tout rappelle une autre époque, les années 60. Et moi, j'ai été très sensible aux couleurs parce que de suite j'ai eu comme référence la peinture de Hopper. Voilà. Et puis après, il y a quand même, c'est un film où il y a beaucoup d'humour et tout. Et là, moi, j'ai pensé à un duo de cinéastes belges. C'est Dominique Abel et puis
Fiona
Gordon.
Ah, ben c'est.
Et c'est.
Je pensais tout
franchement,
à fait.
Franchement, ça m'a vraiment sauté.
Oui.
Et puis alors après, bon, il y a toute la nostalgie avec la bande-son aussi qui est très riche, où on passe vraiment. vraiment du tango de Carlos Gardel à du rock un peu style Björk, enfin où on voit ces jeunes femmes sur leurs instruments en robe de chambre et tout, enfin c'est vraiment voilà. Et puis on a du Schubert aussi qui est très très bien interprété par une personne du commun en fait. Enfin voilà, donc vraiment moi j'ai été complètement happée, comme disait Mathieu, par ce film.
Par ce film. Ouais. On en avait parlé aussi en des termes...
On en avait dit beaucoup
de bien.
Très élogieux.
Très élogieux. Il vous reste donc peu de temps. C'est au Vivarais jusqu'à mercredi prochain. Et tu voulais juste aussi parler de Tony en famille, qui sera à Tuey le 13 octobre.
Oui, moi j'ai été... je ne sais pas, peut-être parce que j'ai été mère aussi de deux adolescents. Donc ça m'a rappelé beaucoup, beaucoup de choses. Mais je trouve que c'est un film très, très sensible qui s'appesantit pas du tout sur comment dire sur ce côté difficile. Bon, elle gère 5 ados et en même temps elle est dans la même situation que ses enfants, c'est-à-dire qu'elle se projette, elle se demande qu'est-ce qui va m'arriver dans l'avenir ? Qu'est-ce que je vais faire de mon temps et tout ? Et parce que bon, elle en a deux qui vont quitter bientôt le foyer. Et puis bon, elle est traversée par ça. Je l'ai trouvé bouleversant. Voilà.
Tony en famille. Donc pour ceux celles et ceux qui ne l'ont pas vu, c'est à voir le 13 octobre.
Parce qu'il y a beaucoup d'humour.
Le 13 octobre. À Tuey, on va même finir à l'heure pour terminer, c'est incroyable.
En fait, il faut venir nombreux pour finir à l'heure.
Que se passe-t-il je ne sais pas si vous voulez ajouter à l'agenda ou dire un mot sur un autre film.
Juste très rapidement, il y a encore à l'affiche au Cinéma Le Navire cette semaine un film qui s'appelle Club Zéro. Il y a peu de séances, mais c'est un film qu'on pourra retrouver dans la programmation des Rencontres des Cinémas d'Europe et que je vous invite vraiment à découvrir. C'est un film étonnant, froid. Et qui brasse. Voilà.
De Jessica Hausner.
Jessica Hausner, oui.
On avait vu qui avait présenté, dont un film était présent aux dernières rencontres des Cinémas d'Europe. Hein. C'était Oublions cette question. Oublions cette question et donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, midi 10 pour le Cinémascope. Merci beaucoup d'être venu. Et merci à vous, auditrices, auditeurs. Allez au cinéma. Merci Nico pour avoir réalisé cette émission. On se retrouve donc vendredi prochain ou sinon lundi pour l'Onde Curieuse.
Cinémascope.
En fait, pour résumer l'histoire sans trop en dire, parce que c'est une histoire assez complexe.
C'est un film absolument sublime où, juste un petit détail, petite cerise sur le gâteau, c'est aussi un film de cinéphile.
Mais en tout cas, allez le voir, ça en vaut la peine et on écoute la bande-annonce tout de suite.
La bande-annonce m'avait laissé entendre à une histoire beaucoup plus profonde, peut-être.
Première chose qui frappe quand même dans ce film, c'est la distribution. Il doit être à peu près 200. Et aussi, la bande-son. La bande-son est absolument magnifique.
Allez-y, allez-y, allez-y. C'est ce qu'on vous conseille, enfin, en tout cas, ici, à Cinémascope.
L'animation tchèque, c'est une animation qui est réputée.
Il y a des ingrédients, c'est un genre à part entière.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est un genre à part entière.
Le rendez-vous hebdomadaire des passionnés de cinéma.
Cinémascope, vous pouvez user et abuser sans problème.
Pour moi, c'est un des films de l'année, pour le moment, peut-être même le film de l'année, à voir absolument.
Le vendredi à 12h10, rediffusion à 17h10.